esprit des lieux.
Il y a une certaine émotion, en fait, que quand on descend dans ce lieu, parce que on sent la présence déjà de l'histoire, hein, parce que chaque fois que je descends là, je suis bien consciente que je descends, on va dire, aux origines de la ville, quasi, hein, puisque, effectivement, il n'y a pas de lieu qui soit antérieur à celui-là. Et puis, toute cette pratique religieuse, cette vie religieuse et sacrée qui a existé pendant des siècles, qui est toujours présente à travers les pierres, à travers la beauté aussi de ce bassin, de cette eau transparente. Voilà.
Esprit des lieux, une émission de Toufik Hakem.
Le mikvé médiéval de Montpellier. Bonjour à toutes et à tous. Ceux d'entre vous qui étaient enfants ou adolescents dans les années 80 se souviennent sans doute plus que les autres d'Indiana Jones et les aventures de cet intrépide archéologue au fouet. On ne se doutait pas alors qu'au même moment, début des années 80 donc, en France, à Montpellier pour être précis, un archéologue, un vrai, Christian Markevitch, spécialiste du Moyen-Âge, découvrait dans les sous-sols d'un bâtiment de Montpellier un mikvé datant du XIIe ou du XIIIe siècle. Le mikvé, c'est un bassin ou une piscine miniature qui sert au bain rituel dans la religion juive. Ce mikvé retrouvé, quasi en parfait état, par hasard, sous le plancher d'une cave, a été restauré et depuis 2004, classé monument historique. Ce mikvé médiéval aurait servi tour à tour depuis de cave à charbon, puis de débarras jusqu'à sa découverte dans les années 80. C'est ce que m'apprend la guide conférencière Marie-Hélène Lecaux, alors qu'on descend les quelques marches qui mènent au bassin.
Oui, attention à la tête, la voûte est très basse. Voilà, donc nous descendons une vingtaine de marches à peu près, hein, pour arriver dans une petite pièce sur la gauche, hein, qui s'appelle le déshabilloir, donc où les Juifs déposaient les vêtements en fait avant d'aller s'immerger dans la piscine, hein, pour le rituel de purification. On voit des marches ici, hein, qui ont d'ailleurs été restaurées. Sachant que ce lieu est quand même très étroit, alors voilà, c'est quelque chose aussi parfois qui surprend les gens. Quand on leur explique un peu à l'extérieur, pour commencer, on fait une petite présentation, beaucoup de gens sont surpris par l'étroitesse des lieux. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on explique que on va se purifier dans un moment intimiste, en fait. Qu'on va se purifier seul ou seul pour les hommes, seul accompagné d'un témoin, hein, pour les femmes. Et que donc, c'est pas du tout un moment où on se retrouve en groupe. Donc, d'où cette étroitesse des lieux et puis, aussi peut-être, on va dire, la difficulté quand même de la construction à l'époque. Ce qui est exceptionnel ici aussi, c'est qu'on est en fait dans la seule cave médiévale de Montpellier. Cave entre guillemets, bien sûr, c'est pas une cave. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la seule construction souterraine de Montpellier au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a de l'eau partout dans le sous-sol, donc... les entrepôts des marchands sont au rez-de-chaussée, ils ne sont pas du tout au sous-sol. Et quand on creuse, c'est souvent, c'est pratiquement toujours pour trouver de l'eau. Donc on creuse pour avoir des puits, puisqu'il y a, il y a énormément de puits au Moyen-Âge. Et puis on va creuser ici, évidemment, pour trouver l'eau vivante, hein, comme selon la tradition
cachère,
juive. Voilà, l'eau cachère, puisqu'il faut que ça soit une eau qui se renouvelle. Alors voilà une question aussi et quelque chose qui surprend beaucoup le public, hein, c'est quand on dit que cette eau, en fait, est vivante, que c'est une eau qui se renouvelle naturellement. Et quand on est là devant la piscine, on a vraiment l'impression d'une eau qui stagne. Mais en même temps, sa clarté, sa limpidité, sa transparence dit tout le contraire, hein, d'une eau stagnante. Quand il pleut, le niveau monte. Quand il pleut plus, ça redescend. Et on a quand même une certaine, on va dire, un certain lien avec la circulation des eaux souterraines. Bien, j'explique ensuite le rituel de purification. Et donc, la manière hein, dont on doit descendre, s'immerger totalement, plusieurs reprises, jusqu'à la racine des cheveux, etc. Voilà. Ce mikvé, alors ça aussi, c'est important de dire que c'est classé monument historique, bien sûr, puisqu'il fait partie des rares mikvés encore du XIIe siècle en Europe. Bon, il y en a peut-être 5, 6, bon. Voilà. Donc, il y a des mikvés modernes à Montpellier, un pour les hommes, un pour les femmes, où ce rituel se poursuit aujourd'hui, à l'époque contemporaine, mais celui-ci ne sert plus du tout pour la purification. Donc, ce n'est que pour les visites guidées.
Docteur en histoire, Michael Yankou est directeur de l'Institut universitaire Maïmonide AVOS Thomas d'Aquin. Institut fondé en 2000 avec comme objectif de renouer des liens avec le patrimoine judaïque installé au 1 rue de la Barellerie, là où se trouve en sous-sol le mikvé. Il revient sur l'extraordinaire aventure archéologique qui a permis de découvrir ce lieu conservé parce que enfoui sous terre.
On se trouve devant le bain rituel juif de Montpellier. En hébreu, mikvé veut dire agglomération des eaux, qui est l'un des plus anciens bains rituels juifs européens retrouvés, qui est daté des 12e-13e siècles. Il a été découvert par la municipalité au début des années 80 grâce à des historiens, grâce à des archéologues, et inauguré lors du millénaire de Montpellier par le maire de l'époque, Georges Frêche, et René Samuel Sirat, ancien grand rabbin de France et grand acteur du dialogue interreligieux. Alors, il a pu être découvert grâce à des historiens curieux qui se sont penchés dans les archives et, la deuxième facteur chance, nous avons la mention de l'ensemble synagogal. Il y a un acte de vente d'une maison qui jouxte la Domus Coleiudeorum, l'école des Juifs, et fort de ça, la municipalité a pu enclencher un processus et bingo, il a échappé aux rugosités du temps, il n'a pas été détruit et non seulement il est remarquablement conservé, mais en plus il est toujours kasher, toujours licite, apte à l'utilisation, apte à la consommation, ce qui fait que il est exceptionnel. Si on part du principe qu'est précieux ce qui est rare, alors ce bain est précieux. On en a trouvé 3 ou 4 en Europe et en plus il est kasher.
Isabelle Herschy, architecte du patrimoine, c'est en sa compagnie que je découvre pour la première fois de visu ce lieu.
Et donc là, nous descendons les quelques marches qui nous permettent d'accéder au bain rituel juif. Donc nous descendons encore donc, une quinzaine de marches et nous allons découvrir donc, 2 espaces, à la fois le bain rituel en lui-même et un autre espace qu'on appelle le déshabilloir.
Alors il faut baisser la tête. Hein.
Oui. Alors attention, là, donc on se trouve sur un petit palier, mais comme le niveau d'eau du bain rituel est fluctuant, il arrive que les dernières marches soient immergées. Voilà, vous découvrez ici donc ce bassin, et vous voyez là sur la droite une gargouille. L'eau de la nappe phréatique arrive directement par cette gargouille, sans qu'il n'y ait aucune conduite. La main de l'homme n'a pas touché l'eau avant qu'elle arrive donc dans ce bassin.
Donc là, effectivement, on se trouve devant le bassin d'eau qui est à peu près au niveau de la profondeur à taille humaine, qui comporte 7 marches comme les 7 jours de la semaine. C'est un chiffre symbolique dans la tradition monothéiste. Le monde a été fait en 6 jours, puisque Dieu s'est arrêté de travailler le 7e. On a 7 marches. Les 2 profondes, les plus profondes sont d'époque médiévale. Les 5 autres ont été reconstituées à l'identique par les archéologues lors de la restauration. La salle des habilloirs est composée de 3 banquettes au sol. 2 sont médiévales, l'une a été reconstituée à l'identique dans les années 80, de 2 niches murales romanes déjà murées, et aussi de percements dans le plafond, canaux acoustiques, puits de lumière. C'est un mikvé qui est roman, hein, qui a été réalisé par des architectes chrétiens à la demande de la communauté juive, ce qui montre une interpénétration culturelle et religieuse entre les frères et les monothéistes. C'est l'un des 2 plus anciens monuments religieux avec la crypte Notre-Dame. Et c'est l'un des lieux les plus appréciés, plus visités lors des journées patrimoine.
Je
La chose la plus importante que je mets en avant pour commencer, c'est que c'est le lieu le plus ancien de la ville.
Marie-Hélène Lecot, guide conférencière.
Donc, qui a son origine au début du XIIe siècle et qui correspond à l'époque de l'installation de la première communauté juive à Montpellier. Donc, cette communauté qui s'installe ici d'abord parce que expulsée d'Andalousie et qui va installer ici un centre cultuel important qui était constitué de 4 édifices, dont le Mikvé est le seul qui reste aujourd'hui, d'où son importance du fait qu'il est localisé dans le sous-sol et que toute la partie qui se situait au niveau du sol a disparu au moment de l'expulsion des Juifs au milieu du XIVe siècle. Tous les bâtiments ont été rasés. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand je descends au Mikvé, je mentionne bien le niveau du sol au Moyen-Âge, expliquant bien aux gens, visuellement, c'est très intéressant, le niveau du sol qui permet justement de faire la part entre la partie qui relève encore de la présence des Juifs ici au Moyen-Âge et puis la partie qui a été reconstruite au XIVe siècle suite à l'expulsion des Juifs et en faisant référence aux fouilles récentes d'ailleurs qui ont été menées dans ce lieu par un archéologue qui a mis en évidence justement que au-dessus de ce niveau médiéval du sol, eh bien il n'y a plus rien en relation avec la présence des Juifs dans ce quartier. C'est intéressant aussi parce que pendant des années, les architectes des bâtiments de France de la ville se sont un peu disputés, je dirais, notamment par rapport à la localisation de la synagogue, hein, où l'un disait qu'il était à une extrémité de la parcelle, l'autre à l'autre, etc. Et puis finalement, monsieur Markiewicz a mis tout le monde d'accord, puisque désormais, on sait maintenant qu'au-dessus de ce fameux niveau, eh bien, il n'y a plus rien qui soit en relation avec la présence des Juifs à l'époque médiévale à Montpellier.
Qui vient visiter le Mikvé ?
Eh bien, tout le monde. Des enfants de l'école primaire, personnes qui viennent du monde entier, des Juifs du monde entier qui viennent parce qu'ils sont particulièrement attirés par ce lieu d'une extrême rareté. Et ensuite, tous les groupes, d'une manière générale, passent par le Mikvé, quasiment. Tous les gens qui font ce qu'on appelle la visite générale de la ville, l'essentiel, passent forcément par le Mikvé.
Quelles sont les questions que vous posent les visiteurs ?
Alors, ils nous posent énormément de questions, hein, parce que pour la plupart des gens, d'ailleurs, le Mikvé, d'abord, qu'est-ce que c'est que le Mikvé, hein, pour commencer ? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout. Et puis, une fois que j'ai expliqué cela, ensuite, il y a des questions par rapport au lieu, parce qu'il y a des choses qui sont assez peu parlantes, je dirais. Quand on descend, on est dans une sorte de champ de fouilles archéologiques, là, sur la droite. Donc, effectivement, on est quand même là pour expliquer un petit peu et faire parler les pierres. Hein, voilà.
Vous-même, vous êtes de culture ou de confession juive ?
Non, pas du tout.
Alors, comment vous avez plongé dans cette histoire ? Comment vous avez découvert cette histoire ?
Je l'ai découvert parce que je suis guide conférencière à Montpellier depuis un bon nombre d'années et que j'ai vécu d'ailleurs la restauration de ce lieu à l'époque de M. Fraîche. Hein, et depuis 1985-1986, ce lieu entre dans le programme des visites guidées de la ville. Et donc forcément, j'ai été amenée à travailler sur l'histoire de la communauté juive, comme je suis amenée à travailler sur quantité de thématiques à Montpellier. Et c'est une chance pour les guides conférenciers, d'ailleurs, dans cette ville, hein, que de pouvoir parler de médecine, de botanique, de musique, de danse, de lutherie, d'architecture contemporaine, médiévale. Enfin bref, il y a une variété extraordinaire pour nous, les guides conférenciers.
Quel esprit règne dans ce lieu ?
C'est un lieu qui émeut, je dirais, et il y a beaucoup de visiteurs qui sont extrêmement touchés, hein, quand ils descendent et qui découvrent cette piscine avec tout ce que on leur explique et qu'on leur raconte. Moi, c'est cette présence de l'eau, en fait, qui me fait vivre quelque chose de particulier, qui m'émeut, qui me... Voilà. Quand on entre là, dans la première partie, bon, on ne voit que des pierres, des choses détruites, on ne sait pas... Bon, voilà. Mais quand on arrive là, face à cette eau millénaire, finalement, parce que cette eau, c'est la même sans être la même, tout en étant la même, puisque c'est l'eau du sous-sol qui arrive, qui repart, dont le niveau varie en fonction des pluies. Je dirais, c'est un peu voilà, la même chose que quand on regarde les vagues dans la mer, par exemple, on se dit que, eh bien, il y a des centaines d'années, nos semblables voyaient la même chose, en fait.
Esprit des lieux, Tufik Hakem sur France Culture.
Esprit des lieux à Montpellier, dans un des plus anciens mikvé d'Europe, situé au 1 rue de la Barallerie, dans l'ancien quartier juif de la ville. Le mikvé Le Bain Juif. Accompagné de l'architecte du patrimoine Isabelle Hirschi, l'historien Michael Yankou m'explique sur place le rituel du bain de purification dans la religion juive.
Alors dans la tradition juive, on doit aller régulièrement au mikvé, on passe de l'état de tamé à tahor, d'impur à pur, c'est une renaissance, quelqu'un qui embrasse le judaïsme, qui se convertit, devra passer inévitablement par le mikvé. Il y a une fréquence peut-être plus accrue chez la gente féminine, parce qu'il y a l'obligation d'aller une fois par mois après le cycle mensuel. Il est aussi associé à la gente féminine pour le mariage. On enjoint la future épouse d'aller au mikvé avant de se marier. C'est pour ça qu'on a souvent des endroits enjolivés, une fenêtre géminée avec beaucoup de motifs floraux et végétaux. C'est associé à la gente féminine quand les hommes sont plus associés à la synagogue. Mais les hommes pieux y vont aussi régulièrement.
Et ce rituel continue ?
Ce rituel continue, il provient de l'Israël antique, du temple de Jérusalem. Avant d'aller au temple de Jérusalem, on devait passer par une salle d'eau, mais avec la diaspora, il va revêtir une importance beaucoup plus profonde. Et effectivement, c'est incontournable dans la tradition juive. Quand on cherche d'ailleurs une synagogue, il vaut mieux commencer par chercher un mikvé, parce que les juifs, avant d'édifier un ensemble synagogal, essayent de vérifier qu'il y a bien une source d'eau. Alors, pour qu'un mikvé soit kasher, soit licite, il ne faut pas que ce soit une eau stagnante. Là, ce n'est pas une eau stagnante, il n'y a pas de vase à la surface, c'est une eau qui circule par des manières comme une piscine, par un orifice où l'eau rentre et sort, et aussi par capillarité. Il faut que ce soit effectivement une eau naturelle, c'est indispensable. Et là, en l'occurrence, c'est la nappe phréatique, c'est l'eau de source qui alimente essentiellement le bain, aussi ruissellement dû à la pluie. En l'occurrence, non seulement on a découvert ce lieu et il a bien échappé aux outrages du temps, mais en plus, il marche, il est cachère. En grattant un peu, l'eau a rejailli, l'eau circule, l'eau ne stagne pas, c'est une eau naturelle et c'est magique. Les documents ne le disent pas, mais on sait dans la tradition hébraïque, et un rabbin le dira mieux que moi, effectivement, on doit se dénuder, s'immerger une fraction de seconde avec des bénédictions d'usage et en ressortir. Ce n'était pas un lieu où on prenait soin de son corps, mais plutôt de son esprit. C'est un rituel, donc on pouvait rester un peu plus, un peu moins. Mais une fois qu'on est immergé nu une fraction de seconde, on peut en ressortir. On peut faire un mikvé dans une rivière, puisque c'est une eau naturelle qui circule.
Et donc ici, dans le déshabilloir, donc dans la pièce qui précède le mikvé, les personnes se déshabillaient, laissaient leurs vêtements sur les banquettes. Il y avait également donc deux niches pour les textes sacrés et une baie géminée là qui est avec un chapiteau d'un décor végétal qui est daté du XIIe siècle, qui permet donc de voir la personne qui s'immerge depuis le déshabilloir.
À quoi ressemble aujourd'hui un mikvé contemporain ?
Oui, à qui dit communauté juive, dit mikvé. Indubitablement, c'est obligatoire pour qui se veut plus ou moins pieux. Vous cherchez une synagogue, vous commencez par chercher un mikvé. On a toujours une salle des habilloirs, des escaliers qui descendent dans le bain, 7 marches, et l'eau doit être naturelle. On passe de l'état de tamé à tahor, d'impur à pur, et on peut faire un mikvé dans n'importe quelle source d'eau qui circule, qui n'est pas stagnante. Comme une synagogue, on peut avoir seulement juste 10 hommes tournés vers Jérusalem, le quorum requis par la loi juive, et nous avons une synagogue. La découverte du mikvé a produit des effets que l'on voit jusqu'à aujourd'hui. Au départ, effectivement, la collectivité juive était fière d'avoir ce bain, même s'il ne lui appartenait pas, puisqu'il appartient à la ville. Et aujourd'hui, c'est la municipalité, c'est la population montpelliéraine qui est fière de ce mikvé. Parce qu'il y a une continuité dans le monde chrétien, dans le monde arabo-musulman, de l'eau. Parce qu'on se rend compte que ces racines chrétiennes, judéo-arabo, aussi musulmanes, c'est un héritage commun. Et il est très apprécié, très visité. Et effectivement, c'est pour ça que une effervescence s'est mise en place ici, à tous les niveaux, pour que, effectivement, la restitution publique soit la plus intéressante possible. Donc le mikvé, les salles attenantes, les restes synagogaux vont progressivement être présentés au mieux afin que la population montpelliéraine comprenne ce formidable héritage quasi exceptionnel. Même si les racines du judaïsme en France sont à Arles et Narbonne, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas de synagogue. À Aix-Marseille, pareil. À Paris, c'est la France du Nord, il n'y a pas de bain rituel juif du Moyen-Âge. Et Montpellier, clin d'œil de l'histoire, est récompensé pour son apport. Voilà. Et donc, c'est un clin d'œil de l'histoire, mais c'est ce qu'on peut dire.
Daniel Knafo est originaire de la région parisienne. Mais depuis cet été, il est à Montpellier en tant que rabbin. Il avait bien entendu parler du mikvé, mais n'avait jamais eu le temps de le visiter. C'est donc moi qui m'improvise guide pour le rabbin, et j'avoue que cette inversion des rôles me plaît bien. Daniel Knafo, vous êtes rabbin et vous venez d'arriver à Montpellier?
Oui, depuis le mois de juin.
Vous allez découvrir pour la première fois ce bain rituel juif de Montpellier.
Absolument, c'est la première fois que j'y rentre.
On y va?
Allez-y, on y va.
Mais vous étiez un peu au courant de cette histoire, de cette découverte?
Absolument, oui, je m'étais renseigné un peu à l'avance, mais j'y suis jamais rentré en fait, j'y suis souvent passé devant, et donc je me suis renseigné aussi d'un point de vue historique, et puis surtout par rapport à la richesse du patrimoine. Ouais.
On nous ouvre la porte. Un dimanche, puisqu'hier samedi, c'était pas possible, c'était Shabbat.
C'est ça. C'est à la fois émouvant et en même temps très intense.
Qu'est-ce que ça représente justement le mikvé dans la religion juive?
Alors le mikvé, donc c'est en fait le terme mikvé vient du mot à propos du verset justement lors de la création du monde. On dit que Dieu a dit au troisième jour de la création ikavu amaim, que les eaux se rassemblent. Le mot mikvé vient de ce terme ikavu, c'est-à-dire le rassemblement des eaux. C'est une étendue d'eau. Ça peut être une rivière, ça peut être un puits, ça peut être également justement comme dans ce cas-là, je pense, puisque on m'a dit que c'était donc de l'eau qui provenait des nappes phréatiques. Donc c'est un ma'ayan, c'est-à-dire une source d'eau. Donc on demande à ce que cette eau-là soit ce qu'on appelle ma'im chaim, c'est-à-dire des eaux vives qui n'ont pas été puisées, qui sont justement arrivées naturellement, sans l'intervention de l'homme. L'idée justement de la symbolique, c'est dans ce troisième jour de la création, à ce moment-là, l'eau recouvrait la totalité du globe. La terre ferme justement, Dieu dit « Ikavu amaim el makom echad » que les eaux s'assemblent en un seul point et que la terre ferme soit visible. C'est-à-dire que c'est cette terre ferme qui a en fait été la possibilité que l'homme soit créé. Donc avant cela, l'homme n'avait pas cette possibilité d'existence puisque la terre n'était pas visible. Et justement, lorsqu'on s'immerge dans un mikvé, alors on revient un peu à cet état initial d'avant la création, c'est-à-dire d'avant la création de l'homme, on a cette idée de renouveau, de renouvellement, du fait que l'homme va retrouver un peu comme un état embryonnaire, un peu complètement immergé dans cette eau, et ressortir, si on veut, comme une personne un peu nouvelle, purifiée, si on peut dire ça, ouais.
Ça continue à être un rituel pratiqué, bien sûr.
Absolument, en fait, c'est des étapes très précises de la vie juive. Ça peut être lors d'un mariage, ça peut être lors d'une conversion, ça peut être les femmes notamment qui, à chaque période menstruelle, vont s'immerger à ce moment-là dans un mikvé. Et c'est justement pour symboliser donc un passage d'un état à un autre. Mais c'est une pratique qui est encore tout à fait, bien sûr, pratiquée.
Alors, quoi ça ressemble aujourd'hui un mikvé moderne ?
Alors, un mikvé moderne, c'est plutôt ce qu'on appelle un bor, c'est-à-dire qu'on va rassembler dans un bassin donc de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie, effectivement, lorsqu'elle est rassemblée sans l'intervention, encore une fois, sans être aspirée, sans être pompée, sans la main de l'homme, donc cette eau de pluie qui est rassemblée dans un bassin, et ce bassin-là va être alimenté, donc on a une mesure qui s'appelle Arbaïm Séa, c'est-à-dire 40 Séa, c'est un volume d'à peu près un peu moins d'un mètre cube. Donc ce volume-là, donc c'est le volume, on dirait, pour pouvoir immerger le corps d'un être humain. Et cette immersion-là donc, se fait aujourd'hui plutôt dans ce genre de mikvé, c'est-à-dire qu'on rassemble dans un bassin de l'eau de pluie. On peut y ajouter par la suite de l'eau qui a été puisée à partir du moment où on a cette quantité-là de 40 Séa, c'est-à-dire d'un volume donc d'environ un peu moins d'un mètre cube. Alors c'est un petit bassin, mais je trouve qu'il est relativement assez large, même par rapport à certains autres aujourd'hui. En fait, effectivement, on y rentre un à la fois. Donc les femmes notamment qui s'y rendent vont aller une à une, évidemment, même quitte à ne pas se croiser les unes les autres, pour respecter l'intimité de chacune. Mais au niveau des hommes, alors on peut avoir des mikvés aujourd'hui, notamment, dans lesquels les hommes vont s'immerger, notamment certains vont y aller avant l'entrée du Shabbat, certains vont y aller même tous les jours, ça dépend des pratiques. Et quand ils s'immergent, ils peuvent effectivement y aller à deux ou trois si ça les gêne pas, mais si la taille est relativement suffisante en tout cas.
Quand vous dites ça les gêne pas, parce qu'il faut être nu, hein.
Absolument, on s'immerge totalement nu. Et donc, mais l'espace, en tout cas, est relativement assez petit, c'est vrai, mais en tout cas, en profondeur, il faut qu'il y ait encore, comme on a dit, la possibilité d'être immergé totalement, sans forcément se courber, sans qu'il y ait de gêne quelconque. Il faut que ça soit parfaitement fait naturellement.
Qu'est-ce que ce lieu peut apporter à un rabbin qui vient de s'installer à Montpellier ?
Ben déjà le fait que, historiquement parlant, il y ait des traces donc de vie juive antérieure, et ça enrichit, je dirais, le patrimoine de la vie juive de Montpellier, et c'est une fierté aussi de pouvoir constater donc qu'il y a un lieu avec autant d'histoires, de choses qui sont à raconter, et je pense que c'est un patrimoine important, et on pourrait peut-être y faire venir de temps en temps les fidèles. Si.
Vous avez pratiqué sans doute ce rituel, vous, ce mikvé, comment pourrait le décrire ? C'est un beau mikvé ?
Alors esthétiquement, évidemment, on peut toujours trouver des mikvés qui sont très beaux. Aujourd'hui, on fait en sorte pour que les femmes, notamment, soient à l'aise et qu'elles puissent pratiquer le rite convenablement. Donc on fait en sorte que ça soit extrêmement propre, extrêmement beau. Alors là, effectivement, il est un peu sale, mais je dirais que le côté antique et le fait qu'il soit chargé d'histoire donne envie de s'y tremper.
Esprit des lieux, Tufik Hakem, à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.
Le mikvé médiéval de Montpellier, avec l'historien Michael Yonkou, directeur de l'Institut universitaire Maïmounide Averroès Thomas d'Aquin, la guide et conférencière Marie-Hélène Lecaux, l'architecte du patrimoine Isabelle Hirschi et le rabbin Daniel Knafo. Coordination Marceau Vassy, prise de son Jean-Frédérics, mixage Pierrick Charles, réalisation Vincent Abouchard. Thank you.